semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, comme chaque samedi à cette heure-ci, nous allons revivre 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Nous allons partir pour le Nigeria, l'Ukraine par exemple. Notre invité aujourd'hui est Michel Fouché, géographe, diplomate. Il vient d'écrire « Frontières d'Afrique pour en finir avec un mythe ». Un livre édité au CNRS édition. Bonjour Michel Fouché.
Bonjour.
Vous aimez bien combattre les mythes?
Ah oui, bien sûr. Les représentations, les cartes mentales, les idées fausses.
Pour en finir avec le mythe des cicatrices coloniales responsables de tous les maux. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les frontières sont responsables de...
Oui, bien sûr, parce que c'est la culpabilité occidentale sur tous les sujets mondiaux.
Sept jours dans le monde.
Alors partons d'abord au Vietnam, Michel Fouché, où ces derniers jours, vous le savez, de violentes manifestations anti-chinoises ont éclaté. Elles ont commencé mardi dans le sud-est du pays à cause d'un projet chinois de forage pétrolier dans un secteur de la mer de Chine revendiqué par les deux pays depuis longtemps. Déjà le 7 mai dernier, il y avait eu une confrontation entre des bateaux des deux pays. Juliette Garbrandt.
Près de 10 000 travailleurs de différentes zones industrielles de la province de Bình Dương sont descendus dans la rue mardi. Les manifestants qui portaient des drapeaux vietnamiens et des pancartes appelant la Chine à ne pas envahir le Vietnam ont bloqué l'entrée d'usines à capitaux chinois et détruit des enseignes. La mobilisation est montée grâce aux réseaux sociaux, comme l'explique Nguyen Duc Tham qui travaille dans l'une de ces usines.
Les ouvriers ont leur portable, ils se connectent tous les jours et ils suivent ce qui se passe. Au travail, ils en parlent et ils sont en colère contre la Chine. La télé montre qu'il y a beaucoup de bateaux chinois qui tirent au canon à eau contre les petits bateaux vietnamiens. Il y avait beaucoup de monde à la manifestation et on ne sait pas ce qui va se passer maintenant parce que près d'ici, il y a des entreprises chinoises et la situation est assez tendue.
Le gouvernement vietnamien a toléré les premiers rassemblements qui lui permettent de montrer son opposition à Pékin, mais il craint un débordement de violence. Ces manifestations sont d'une ampleur jamais vue dans le pays depuis des dizaines d'années et les autorités de Hanoï redoutent que la mobilisation ne se retourne contre la stricte censure qu'elles exercent sur la population.
Ces manifestations de protestation ont fait plusieurs dizaines de victimes. La situation est à suivre dans nos journaux.
RFI.
Michel Fouché, puisque nous allons évoquer la question des frontières africaines, parlons d'un autre fait d'actualité ces derniers jours, la décision du Tchad de fermer précisément sa frontière avec la Centrafrique. Correspondance mardi de Madjassra Nako.
La frontière entre le Tchad et la Centrafrique, c'est plus de 1000 km qui s'étendent d'est en ouest. À l'ouest, en face de la ville de Gorée, ce sont les localités de Pawa et Markunda, devenues dépendantes du Tchad pour leurs approvisionnements qui risquent de manquer de carburant et autres produits manufacturés, Bangui étant très loin. La ville de Sido Centrafrique est dans la même situation. Elle ne pourra plus être approvisionnée à partir de Sido Tchad. Plus à l'est, c'est le village tchadien de Roro, non loin de Kiabé, qui va perdre en retombées économiques. Ce village qui abrite un important marché de bétail risque de ne plus voir avant un certain temps des éleveurs arrivés de la Centrafrique pour vendre des bœufs, engraissés pendant plusieurs mois dans les pâturages verdoyens du Bamingui ou de la Vakaga. La région tchadienne du Salamat a elle aussi déployé des patrouilles pour assurer la fermeture de la frontière. Mais de l'avis de plusieurs habitants de la frontière, celle-ci longue de plus de 1000 km ne pourrait être hermétiquement fermée tant il y a des pistes et des petites routes.
Une semaine d'actualité en compagnie donc de Michel Fouché qui vient d'écrire Frontières d'Afrique pour en finir avec un mythe, un livre publié au CNRS édition. Un mot sur ce conflit, sur ces tensions pour le moins au Vietnam, tensions de manifestations contre la Chine et ce conflit, ce vieux conflit de frontières là pour le coup.
Oui, c'est très grave, j'ai toujours pensé, parce que la Chine est révisionniste. La Chine fait référence à des droits historiques, À partir d'une vieille carte de 1947 où la mer de Chine du Sud est entourée de 11 puis 9 traits qui en gros excluent le Vietnam, les Philippines et même le nord de l'Indonésie de toute possibilité d'accès à une zone économique exclusive. Alors il se trouve que là il y a du pétrole, mais même selon cela, même problème avec le Japon. Et donc deux logiques s'affrontent, une logique de droits historiques, improuvables et improbable, et la logique du droit international de la mer. La seule solution, ça serait d'aller, comme le demandent les Philippins, à la Cour internationale de justice. Évidemment, les Chinois n'en veulent pas. Donc tout ça, ça nous rappelle, d'une façon générale, sur la marge du monde, que l'homme ne vit pas seulement d'économie de marché, et que les intérêts croisés ne suffisent pas. Moi, je suis très frappé, à chaque fois que je vais en Asie, j'y vais souvent, des tensions nationalistes. Oui. Au fond, la croissance économique s'accompagne d'une affirmation patriotique canalisée par des pouvoirs autoritaires.
Alors revenons un instant sur les frontières africaines dont on reparlera évidemment dans cette émission. Vous dites que ces frontières finalement tracées par les colonisateurs dans une période assez courte de l'histoire que vous rappelez, hein, ces frontières ont été reconnues par l'Union africaine.
Oui, bon, tracées exogènes, tracées coloniales, en fonction des intérêts des puissances européennes, 1885-1910, tout est réglé. Simplement, je constate que en 1963, puis en 1964, l'Organisation de l'Union africaine note le caractère tangible des frontières issues de la colonisation, et donc il faut les conserver telles qu'elles sont au moment de l'indépendance, sinon c'est le chaos généralisé. Ouais. C'est la sécession du Katanga jusqu'en 63, ou la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est illimité. Donc, cette ligne réaliste s'impose contre les courants panafricanistes de Nkrumah. Et donc, ne soyons pas plus royalistes que le roi, acceptons la position des autorités africaines. C'est un principe qui a été respecté, avec peut-être l'exception de l'Érythrée, mais l'Érythrée était une ancienne colonie italienne. Et puis, bien sûr, l'affaire du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, c'est une invention
américaine
catastrophique, comme je l'ai déjà dit, du département d'État et d'Hollywood. Et des évangélistes et du Parti républicain. C'est une catastrophe.
On va évidemment en reparler dans un instant.
Une semaine d'actualité.
Et partons, Michel Fouché, pour l'Ukraine, pour l'est de l'Ukraine, après le référendum contesté des séparatistes russes au tout début de la semaine. Reportage lundi de Daniel Valo et Bertrand Eclair à Donetsk.
C'est une évidence pour les militants pro-russes de Donetsk. Leur république indépendante, celle pour laquelle ils ont voté ce dimanche, devra forcément se rattacher à la Fédération de Russie. Et pour Yelena, le plus tôt sera le mieux.
J'espère que ça se fera rapidement, mais ça dépendra des circonstances. Il faudra attendre peut-être un mois ou trois mois. En tout cas, il faudra que ça se fasse vite, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. On n'a pas connu ça depuis la Seconde Guerre mondiale et nous voulons que ce cauchemar finisse le plus vite possible.
À Donetsk, tout le monde ne partage pas la fascination de ces militants pour la Russie. Pour Diana, jeune journaliste de 22 ans, les partisans du projet séparatiste se bercent d'illusions quant aux bénéfices qu'ils pourraient tirer d'un rattachement à la Russie.
Je pense qu'en Russie, les conditions de vie ne sont pas meilleures qu'ici, mais les gens espèrent que tout cela changera en cas de rattachement, que tout va leur tomber du ciel. Au final, ils risquent de réaliser qu'avec la Russie, ils ne vont pas vraiment se retrouver dans le pays de leurs rêves.
Comme d'autres partisans de l'Ukraine, Diana envisage désormais de quitter Donetsk. C'est une décision difficile à prendre, dit-elle, mais si la région parvient à se rattacher à la Russie, je n'aurai pas d'autre choix que de partir vers l'ouest pour rester dans mon pays.
Suite d'une semaine d'actualité en Turquie, cette fois après l'accident qui a fait plus de 280 morts dans une mine de charbon à Soma, dans l'ouest du pays. Une catastrophe qui a choqué le pays, bien sûr, et relancé la contestation contre le Premier ministre Erdogan. Reportage de notre correspondant Jérôme Bastion.
Sur le carreau de la mine, l'odeur du charbon brûlé est suffocante. L'air est irrespirable et les yeux piquent. On ose imaginer comment cela peut être au fond, à plusieurs centaines de mètres sous terre. Ces fumées remontent des galeries où le feu continue de brûler. Un instructeur explique à une centaine de secouristes qui s'apprêtent à descendre comment porter le masque à gaz qui leur permettra de tenir une demi-heure à peine. Murat, lui-même mineur, va faire sa première exploration dans le ventre de la terre.
Après avoir pris toutes les précautions contre une intoxication au mono et dioxyde de carbone et autres gaz, on va descendre et faire notre possible. J'espère qu'on ramènera de bonnes nouvelles.
L'ascenseur se met en route. Aïché Korkmaz reprend espoir.
C'est mon fils que j'attends, il a 31 ans, ça fait 10 ans qu'il travaille là. Moi je leur ai dit aux responsables, qu'on me le rende, le reste je m'en fiche. Et j'ai encore de l'espoir.
Mais son attente se prolongera encore. Les corps qui remontent sans vie et partent en ambulance lui sont étrangers. La houillère est loin d'avoir rendu toutes ses gueules noires.
L'actualité internationale, c'est aussi la victoire du BJP, le parti nationaliste hindou, aux élections législatives en Inde. On vous en parle bien sûr dans nos journaux. À noter aussi, à un mois de la Coupe du Monde de football au Brésil, des manifestations contre le coût de cette compétition dans les grandes villes du pays jeudi. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Michel Fouché. Alors l'Ukraine, vaste sujet, c'est un sujet que vous scrutez, je le sais, qui vous intéresse. Là, il est aussi question, entre autres, de frontières, de limites de pays.
Mais il est surtout question de vie politique, sociale et économique. Et entre le reportage de lundi et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de tout à fait fondamental hier, dans cinq villes d'Ukraine, dont Donetsk. Mais ça a commencé à Mariupol. C'est la mobilisation des ouvriers métallurgistes et des mineurs qui ont repris le contrôle de Mariupol. Sans doute encadrés par le premier oligarque d'Ukraine, qui est Rinat Akhmetov. Ses sociétés Metinvest et DTKE, c'est 280 000 travailleurs. Il a fait son calcul, si on est indépendant ou très autonome, on perd les marchés européens, il y aura des sanctions, on ferme les usines. Les ouvriers en sont conscients, ils ont repris le contrôle de la ville et ils sont en train de discuter avec les gens de Donetsk. Et moi, j'ai toujours dit que les populations de l'Est de l'Ukraine, à 80%, même russophones, se sentaient ukrainiennes. D'ailleurs, il y a eu à Mariupol des grèves dans les mêmes usines contre l'Union soviétique. Dans le Donbass, c'est-à-dire les deux petits oblasts de Lugansk, et là c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus proche de la Russie, et puis il y a eu une république soviétique du Donbass en 1920, on peut manipuler. Le problème de Poutine, c'était ça, c'est qu'à la différence de la Crimée, il sait très bien que les populations de l'Est de l'Ukraine ont des intérêts économiques complètement globalisés et ne sont pas spontanément favorables un rattachement à la Russie. Donc je pense que si ce mouvement de mobilisation des travailleurs encadré par les dirigeants des usines, notamment la grande usine Ilitch à Mariupol, c'est 5 millions de tonnes d'acier par an, c'est 50 000 travailleurs dans le même coin. Alors, tout ça est un peu désolant comme paysage parce que c'est la Lorraine et la Ruhr des années 50. Et ce qui est désolant aussi, c'est la politique de l'Union européenne, qui va donner 100 milliards d'euros à la Pologne, c'est une bonne chose au nom des fonds structurels, et 1 milliard à l'Ukraine, et qui n'aide que les régions pauvres rurales de l'Ouest. Jamais personne ne va voir ces entreprises, ces ouvriers, ces syndicats de l'Est de l'Ukraine pour leur parler d'Europe. Et là, on a péché par ignorance, par omission. Donc, je crois que quelque chose est tout à fait important.
Ce qui veut dire, Michel Fouché, que c'est un virage,
ça,
selon
ça
vous.
Date d'hier, c'est un virage. Ça veut dire que les oligarques de l'Est, sauf un, ont senti le vent tourner, les sanctions, et se disent qu'ils ont choisi leur camp. Leur camp, c'est celui de leurs intérêts.
Et Vladimir Poutine va laisser faire, à votre avis?
Mais il n'a pas le choix.
Oui, il va suivre ses oligarques.
Mais il n'a pas à les suivre, il s'adaptera à la réalité. Ce que veut le Kremlin, parce que Poutine n'est pas seul, il est populaire, il est soutenu presque unanimement dans tout ça, c'est un droit de regard sur les décisions ukrainiennes, et je crois qu'il faut imaginer des formules un peu triangulaires où Bruxelles, Kiev et Moscou discutent d'un certain nombre de sujets d'intérêt commun. On n'est pas dans une logique de reconquête ou de contention de la Russie. Je veux dire que la Russie a des intérêts légitimes en Ukraine et des intérêts qui ne sont pas légitimes. Traitons des intérêts légitimes et associons ces populations, encore une fois, c'est la Lorraine, c'est la Ruhr en 1950, avant les restructurations. S'ils rentrent dans l'Union, s'ils ont un accord d'association avec l'Union européenne, qu'est-ce qui va leur arriver? Personne ne va jamais leur parler. Donc il y a là quelque chose qui est tout à fait important. La géographie économique, ça existe, et ces gens, au fond, sont en train d'affirmer un espoir ukrainien, en espérant, j'espère moi, qu'ils seront pas déçus.
Ce qui veut dire, Michel Fouché, que ceux qui, les séparatistes, entre guillemets, ceux qui ont organisé ce référendum contesté par tout le monde dimanche dernier, vont
uniquement dans deux oblasts,
qui vont devoir plier en fait.
Alors, il se peut qu'ils se fortifient uniquement dans ces deux oblasts, mais l'est de l'Ukraine, c'est cinq fois plus grand.
Ouais.
Donc, on verra. Et là, ils sont en difficulté.
La Turquie, cet accident dans la mine, dans cette mine, et la relance de la contestation à quelques jours là de l'anniversaire des manifestations de la place Taksim.
Il y a eu des élections qui ont confirmé la popularité du Premier ministre et de son parti, l'AKP. Hein. Ouais. Donc, il y a certainement. Écoutez, je connais pas les conditions de cette mine de charbon. Je sais même pas qui en est propriétaire. C'est vrai que c'est
l'AKP, a priori.
C'est ça. Donc on s'en prend au gouvernement. Enfin bon, le Premier ministre, il est pas responsable de ce qui se passe dans le sous-sol turc. Mais c'est vrai qu'il y a là aussi, c'est très intéressant dans tous ces pays à croissance extrêmement rapide. Vous voyez qu'il y a d'autres dimensions qui ressurgissent. On peut pas aplatir le monde, uniquement le réduire à une économie de marché. Vous avez le sentiment national au Vietnam ou en Chine, des problèmes géopolitiques, et en Turquie, c'est la question de la démocratie qui est posée derrière ce sont des symptômes. En dehors de la tragédie de la mort de ces mineurs, il faut qu'on ait une vision du monde un peu plus riche, un peu plus complexe, un peu plus profonde.
Alors c'est pour ça aussi que je vous ai invité, Michel Fouché. On avait fait ensemble une émission sur votre livre paru en 2012 sur les cartes,
la bataille des cartes.
Vous avez une vision qui englobe l'ensemble de ces données géopolitiques et plus d'ailleurs.
On pourrait dire que la géographie est une tentative de synthèse.
Toujours sous-estimée la géographie, je trouve d'ailleurs. Non,
en France. C'est pas une critique à l'égard de mes collègues historiens, d'ailleurs j'ai fait beaucoup d'histoire, il y a une hégémonie politique et idéologique des historiens. Ce qui est une bonne chose dans la poursuite de l'identité nationale, mais un peu trop de mémoire en France, un peu trop de culte de la mémoire, pas assez de culture géographique. Et ça m'étonne pas qu'on ait du mal à se situer dans le monde tel qu'il est. Parce que le discours public est dominé par la vision historique. Aucune critique à l'égard de Pierre Nora ou de mes amis historiens, mais il y a, et ça c'est lié au jeu politique. On a souvent des dirigeants politiques dont la culture géographique et géopolitique est assez réduite.
Ouais. Là, j'ai sous les yeux l'atlas de l'influence française dont on dira un mot tout à l'heure. On peut dire beaucoup de choses avec les cartes pourtant. On le répète.
Surtout, on peut dire la vérité. Dire la vérité, c'est-à-dire que notre pays a une présence multiforme, réel et reconnu à l'extérieur. Ouais. Je veux dire, si c'était pas le cas, on se demande pourquoi le président chinois viendrait passer 3 jours en France.
Ouais. Michel Fouché, nous allons marquer une pause pour écouter les nouvelles de ces dernières heures, les nouvelles du monde évidemment, et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.